Le garde le saisit par le bras et le fit entrer dans le couloir. Mais quand il voulut le guider vers la sortie, Andreas résista et se retourna vers la cellule de Jacques de Molay. Le vieux templier qu'il voyait véritablement pour la première fois, sans la médiation d'une fenêtre réfléchissante, était debout au milieu de son cachot, avec sa barbe et sa robe blanche pour derniers apparats de sa grandeur. Les deux hommes échangèrent un long regard entendu, empreint d'une indicible et étonnante fraternité. Ces deux figures que, une semaine plus tôt, tout séparait, naissance, opinion et philosophie, éprouvaient à présent l'une pour l'autre un respect particulier. Et il y avait dans les yeux de l'apothicaire la lumière d'une profonde reconnaissance que l'on n'y voyait que très rarement scintiller. « Bonne chance, Jacques, » dit Andreas d'une voix grave et sincère. « Que Dieu vous garde, Saint-Loup. Venez ici que je vous embrasse. » Andreas jeta un coup d'œil au garde. Celui-ci poussa un soupir d'approbation. L'apothicaire parcourut les quelques pas qui le séparaient de Molay et attrapa les bras que celui-ci lui tendait. Le moine soldat leva une main vers le visage d'Andreas qui remarqua alors à son doigt le sceau des Templiers, la braxa spantée, que l'homme portait encore comme si l'ordre existait toujours, ce qui était fort triste. Molay posa alors la paume sur le front d'Andreas, comme s'il avait voulu lui offrir quelques bénédictions, ce qu'Andreas ne voyait pas du meilleur œil. Puis il se pencha vers lui, aussi près que le permettaient les barreaux de sa cellule, et s'assurant que le garde ne pouvait pas l'entendre, il murmura. « Pour ne garer, je crois savoir ce qu'il cherche. Allez trouver un maître de la Schola Gnosticos. » Andreas, qui ne s'était pas attendu à une telle confidence, haussa un sourcil circonspect. « Pardon, la Schola Gnosticos, » chuchota le Templier. « Ils auront des réponses pour vous, mon ami. Puissiez-vous alors trouver la paix ?»« Mais, de quoi parlez-vous ?» balbutia l'apothicaire. Mais avant que Molay n'ait pu répondre, le garde s'était approché, et d'un geste agacé, il tira Andreas par le bras. « Il suffit, maître Saint-Loup, sortons !» Tout en se laissant traîner vers la sortie comme un enfant qu'on emmène de force, l'apothicaire interloqué ne détacha pas son regard du Templier. Mais dans les yeux de celui-ci, il ne trouva aucune explication à ce qui venait d'être dit. Et bientôt la porte se referma sur cet homme qu'il venait de voir pour la première et dernière fois, et qui, un an plus tard, très exactement, serait brûlé sur le bûcher de l'île de la Cité. On mena Andreas sans embâge jusqu'à la rue du Temple, où devant l'enclos l'attendait le jeune Robin. L'apothicaire, qui par la fenêtre de sa cellule n'avait rien vu d'autre que le ciel de Paris pendant plus d'une semaine, constata qu'il n'y avait plus un seul morceau de neige sur la chaussée des trempées. Le printemps approchait enfin. Sans un mot de plus, le garde referma la grande porte derrière Andreas. Robin se précipita vers son maître, le visage illuminé.
« Maître, maître, quel bonheur de vous voir !»
À la présence du jeune rouquin, Andreas comprit qu'il devait bien à son apprenti le génie de sa libération, et il lui adressa un sourire obligé. « Ainsi tu es parvenu à convaincre le vieux Boussel, mon garçon. » Le jeune homme acquiesça, mais sa modestie l'empêcha de dire qu'il avait fallu quelque astuce pour obtenir la faveur de l'abbé.
« L'abbé m'a fait savoir que c'était au frère Marigny que vous deviez votre délivrance, maître. »«
Au frère Marigny ? Je reconnais bien là la perfidie de Boussel que d'avoir joué de l'animosité entre le chambellan et le chancelier.
Ce qui compte, c'est que vous soyez libre à nouveau. » Nous avons ici peur.
J'espère que tu n'y as pas trouvé le prétexte pour cesser d'étudier, Robin.
C'est-à-dire que vous n'étiez pas là.
Andreas sourit. Là où le chat n'est pas, souris s'y révèle. Allons, dépêchons-nous de rentrer, il me tarde de retrouver la cuisine de cette chère Marguerite. Chrétien de Troyes disait très justement qu'à tout repas, la faim est la meilleure et la plus piquante des sauces. Mais il n'avait jamais séjourné en prison. Laissant derrière eux le temple et Saint-Martin-des-Champs, ils passèrent côte à côte les murs de Paris. Et Andreas éprouva quelque plaisir inattendu à retrouver l'agitation folle de la capitale, où tout le monde semblait occupé, en retard. Et il sourit en voyant s'aligner la foule immense des artisans et des commerçants en ébullition. Les peintres, les selliers, les libraires, les écrivains, les parcheminiers, les boutonniers, les tondeurs de draps, les tailleurs de pierre, les buffetiers, les cordeliers, les faiseurs de gants de laine,